Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Gatsby Minassian.
Bonjour.
Journaliste au Monde, enseignant à Sciences Po, spécialiste de l'Arménie. Vous avez 9 minutes pour nous expliquer ce qui se joue avec cette nouvelle guerre pour le peuple arménien et pour l'équilibre international, puisque ce conflit met à nouveau face à face la Russie de Poutine et la Turquie d'Erdogan. D'abord, à l'origine des combats, une offensive lancée par l'Azerbaïdjan fin septembre pour reconquérir cette enclave montagneuse peuplée d'Arméniens et qui a fait sécession après la chute de l'URSS il y a près de 30 ans. Conflit jamais réglé depuis et pas du tout en voie de règlement.
La preuve que oui. Et en fait, c'est le résultat de deux processus. Un processus long, c'est-à-dire des négociations qui n'avançaient pas sur le terrain et une forme de blocage entre les différentes parties et un ras-le-bol de chaque côté. Et puis, un processus court, c'est-à-dire l'irruption de la Turquie, comme vous venez de le noter, oui, dans le jeu dangereux du Caucase, où vous allumez à peine une branche et le feu prend, quoi.
On va en reparler de la Turquie, mais ce conflit peut-il seulement être réglé quand il y a deux principes qui s'affrontent, quand l'Azerbaïdjan défend l'intégrité de son territoire et l'Arménie le droit de son peuple à disposer de lui-même.
Eh ben, c'est toute la difficulté sur le plan juridique, effectivement, que vous avez deux principes normatifs du droit qui s'affrontent. Et c'est aux diplomates, finalement, de trouver une solution. Oui. Et on peut imaginer une solution, mais simplement, on a affaire à deux nationalismes, l'un plus agressif que l'autre. On a affaire à un régime très autoritaire en Azerbaïdjan. Certains y voient une dictature, ce sont les ONG. Oui. Et face à un régime qui est en train de se démocratiser surtout depuis 2 ans avec la révolution de velours, menée par Nicole Pachinian. Et donc, on voit bien la difficulté pour les différentes parties de s'asseoir autour d'une table et de trouver une solution où l'autre compte. Ouais. Et c'est ça la difficulté. Quand vous avez cette agression de l'Azerbaïdjan, qui finalement veut un Karabakh sans les habitants, on peut se poser la question, est-ce que vous voulez vraiment la paix ?
Le but de guerre de l'Azerbaïdjan, c'est la reconquête du Haut-Karabakh ?
C'est à la fois la reconquête, c'est aussi une ambition, c'est-à-dire cette continuité géographique continue entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, qui s'appelle le panturquisme, puisqu'on a des visées sur le Zanguezour, qui est entre le Nakhitchevan et le Karabakh, et qui a ensuite une idée plus large encore pour la Turquie, c'est-à-dire cette soif, cette ambition néo-impériale, néo-ottomane, d'essayer de créer une sorte de zone d'influence tout autour d'elle.
Oui, alors c'est une région très compliquée, on est dans le Caucase du Sud, mais il faut préciser qu'on a donc un Azerbaïdjan qui est turcophone,
hein,
qui est allié historique de la Turquie, même religion musulmane, etc. Mais les deux pays sont séparés par l'Arménie. Et donc le couloir dont vous parlez supposerait l'annexion d'un petit bout de l'Arménie, c'est déjà pas un grand pays, hein, l'Arménie.
Déjà,
hein.
Exactement.
C'est un tout petit pays.
Exactement.
Et donc, il faudrait que l'Arménie soit amputée d'une zone dans le sud.
C'est ça.
Pour ce couloir-là, vous pensez que le but de guerre de la Turquie, c'est de percer ce couloir et de faire un lien direct entre l'Azerbaïdjan et la Turquie.
À terme, oui. Un des buts de guerre de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, c'est ça. Un autre but de guerre de la Turquie, c'est de casser le processus qui est en cours, le processus de Minsk, et ensuite se positionner en puissance médiane pour essayer d'accélérer une résolution du conflit en faveur de l'Azerbaïdjan. Mais vu que la Turquie a un passif vis-à-vis des Arméniens, il est très difficile pour l'Arménie d'accepter une médiation de la Turquie. Et lorsque vous parlez à juste titre de ce couloir au sud que l'Arménie serait amenée un jour à céder, il est hors de question pour les Arméniens de le céder, puisque ça couperait sa frontière avec leur frontière avec l'Iran. Mais surtout, l'Iran ne veut pas et la Russie non plus.
Oui, et puis vous venez de le rappeler, évidemment, tout cela réveille la mémoire du génocide arménien d'il y a un siècle et cette opposition historique, héréditaire entre les Turcs et les Arméniens. On a donc deux pays en guerre qui sont Azerbaïdjan et Arménie, qui sont tous deux liés à la Russie. Économiquement, pour l'Azerbaïdjan, riche de quoi ? Gaz et pétrole pour l'essentiel. Militairement pour l'Arménie, Moscou et Yerevan sont liés par un traité de défense. Poutine paraît embarrassé, Gatsby Minassian, et surtout impuissant à faire cesser les combats. Il y a un cessez-le-feu, on le rappelle, qui a été signé il y a quelques jours, et Moscou constate tous les matins que les combats continuent.
Moscou est dans une position très difficile, Poutine en particulier. C'est qu'en fait, il est face à un dilemme. Soit il continue sa rhétorique anti-occidentale et ses positions rejoignent celles de la Turquie. Et à ce moment-là, le groupe de Minsk composé de la coprésidence franco-russo-américaine vole en éclats. Mais c'est faire prendre le risque à sa sécurité nationale de voir une Turquie de plus en plus présente au Caucase avec un autre risque, celui de la djihadisation. Et ça, c'est pas bon pour la sécurité de la Russie et de l'Iran. Ou alors, l'autre partie de l'alternative, c'est en gros, je maintiens l'idée du groupe de Minsk avec donc une coprésidence avec deux pays occidentaux, mais j'écarte la Turquie du jeu, mais je prends le risque de voir la Turquie me provoquer ailleurs, que ce soit en Syrie, en Libye ou ailleurs encore.
Et oui, le tsar et le sultan, comme on a dit souvent, donc la Turquie d'Erdogan qui est entrée en jeu avec, et pas simplement avec un soutien caché, avec l'envoi de mercenaires, des djihadistes prélevés sur le front syrien. On parle de quoi? De centaines, de milliers de combattants?
De milliers de combattants.
Et puis des armes, des drones, ces drones qui sont entrés en action, qui évidemment mettent en échec l'armée arménienne aussi, qui est assez faible.
Alors, le mode opératoire est le même qu'en Libye, c'est-à-dire des drones, ouais, assassins, et des troupes supplétives djihadistes sur le sol. Alors, sur le front, c'est très difficile de savoir ce qui s'y passe. Il y a une forte résistance. La ligne n'arrête pas de bouger. Alors, les uns avancent, les autres reculent. Les uns reprennent, les premiers reculent ou avancent aussi. C'est très difficile, on ne peut pas voir. Il n'y a pas de percée stratégique majeure à cette heure. Et il y a une forme d'impuissance de la part de l'agresseur azerbaïdjanais dans cette guerre. C'est qu'il n'arrive pas à percer les lignes ennemies. Et de l'autre côté, on essaye de contenir. Ouais. Dans l'affaire de la trêve humanitaire que vous venez d'évoquer, tout porte à croire que la Turquie et l'Azerbaïdjan n'avaient aucun intérêt à cette trêve pour plusieurs raisons. D'abord, c'est très difficile d'arrêter une offensive comme ça, à peine lancée. Deuxièmement, la Turquie n'est pas dans les quatre points de la trêve, elle n'est ni stipulée directement ou indirectement. Donc la Turquie veut justement avoir un rôle à jouer, elle ne le joue pas. Et la Russie avait fait en sorte de garder le groupe de Minsk, tout en obtenant de la part des parties prenantes un engagement de respecter ce format. Or, ça dissociait la Turquie de l'Azerbaïdjan. Et c'était insupportable pour l'Azerbaïdjan et pour la Turquie de voir éventuellement un problème se créer sous l'égide de la Russie. Et donc, il y a eu une nouvelle offensive de l'Azerbaïdjan soutenue par la Turquie. Ce qui est intéressant aussi, pourquoi cette trêve était fragile, c'est parce qu'elle a été signée par des ministres d'affaires étrangères. Or, jusqu'à maintenant, toutes les trêves, tous les cessez-le-feu signés entre Arméniens et Azerbaïdjanais ont été l'objet de signatures par les ministres de la Défense ou les chefs d'état-major. Et là, petit à petit, on voit le ministre russe de la Défense monter au créneau de plus en plus. Ça veut dire que le militaire est en train de prendre le dessus, peut-être, sur le diplomate. Et tout ce qui peut aller dans le sens de la paix, eh bien, est plutôt une bonne chose.
Évidemment, c'est un conflit dont on se demande s'il pourrait dégénérer par le jeu des alliances. Évidemment, on a là des grandes puissances, Turquie, Russie, qui sont là. La Turquie, rappelons-le, même si ça reste toujours un peu bizarre de le rappeler, est membre de l'OTAN. Les Arméniens du monde entier sont très mobilisés, Gadzi Minassian. C'est un patriotisme inquiet et qui vit encore dans le souvenir du génocide.
Complètement. Moi, ce que je vois, c'est que pour les Arméniens, c'est une guerre de survie.
De survie, vraiment.
Et c'est pour ça que vous avez comme ça un mouvement unanime, consensuel et très, très organisé et très fort dans toute la diaspora. Je ne sais pas ce que ça va donner sur le terrain, mais concrètement, vous avez un fonds qui a été mis en place. Vous avez des millions de dollars ou d'euros, je ne sais pas exactement, qui sont récoltés. Vous avez des personnalités comme Kim Kardashian qui s'investit, ou le joueur de foot Mkhitaryan, ou le chanteur de System of a Down. Vous n'avez jamais vu ça dans toute l'histoire.
Mais pourquoi survit l'Arménie, l'intégrité de l'Arménie, de l'État arménien lui-même n'est pas menacée?
Effectivement, a priori oui, mais comme vous l'avez souligné il y a deux minutes, il y a un risque d'escalade, et qu'on peut se retrouver à un moment donné nez à nez avec la Turquie et la Russie et sur le territoire arménien.
Merci beaucoup Gadzi Minassian, journaliste au Monde, enseignant à Sciences Po et auteur du livre, d'un livre qui vient de paraître, Les Sentiers de la Victoire, peut-on encore gagner une guerre, aux éditions Passé Composé. Merci à vous.